C'était pendant la guerre, le dernier été. On volait en patrouille au-dessus de l'Adriatique, en direction d'Istria, parce que le sale boulot, c'est toujours pour les mêmes. Le type qui volait à côté de moi ce jour-là, c'était Jaco Berlini, un vieux copain qui s'était marié 2 jours avant. Il m'avait demandé d'être son témoin et d'organiser la cérémonie. On nous avait refusé notre père, mais on avait dû repartir tout de suite pour le front. C'était l'enfer autour de nous. Ennemis comme alliés tombaient comme des mouches. Moi, j'avais 3 appareils qui me collaient au train. Je faisais de l'acrobatie pour m'en dépêtrer et je ne voyais même pas que mes camarades allaient au tapis les uns après les autres. Très vite, je me suis retrouvé tout seul. Les 3 avions me poursuivaient toujours. J'avais de plus en plus de mal à les feinter. À force de jouer du manche et du pied, j'avais les membres engourdis. Et j'étais pris d'éblouissement. Je me croyais foutu quand, brusquement, le ciel est devenu tout blanc.
Tout blanc ?
Enfin, disons, il est devenu très lumineux. C'était une clarté soudaine, irréelle. Et il m'a fallu un long moment pour comprendre que je volais dans une mer de nuages. J'étais à bout de force, incapable de piloter. Et pourtant, mon avion naviguait tout seul, prenait de l'altitude.
La mer de nuages ?
C'est ça. Désespérément silencieuse, sous un ciel d'un bleu très pur. Et dans ce ciel flottait très haut un étrange ruban de nuages, une espèce de voie lactée. Quand j'ai repris connaissance, j'étais seul de nouveau. Je glissais sur la mer de nuages.
Ce jour-là, le bon Dieu avait décidé que ce n'était pas ton tour.
Oui, j'ai plutôt eu l'impression qu'il me disait « Désormais, tu voleras comme ça, tout seul, pour toujours. »
Dis pas ça, Porco. Les meilleurs volent jamais seuls.
Les meilleurs sont toujours ceux qui partent. Et qui sait, là où ils sont, c'est peut-être l'enfer. Bon, l'histoire est finie. Dors maintenant.
Bonjour et bienvenue dans ce Bro Clash. Et non, ça n'est pas tout à fait un vrai Bro Clash. C'est comme on vous l'avait déjà fait une première fois. Il y a des fois des choses qu'on aime, Laurent et moi, de façon raccord ou qu'on déteste de façon raccord. Et donc, on vous fait quand même des petites émissions pour vous parler et pour vous recommander tout ça. L'idée, cette fois, c'est que ça ne va pas être un Bro Crash, c'est que c'est un Bro Cash. Ça veut dire qu'on aime. Donc, bienvenue dans ce Bro Cash 2 pour... est consacré au studio Ghibli. Donc voilà, on va parler de notre amour infini de Ghibli. On va quand même structurer un petit peu ça et on va commencer par... Toi,
c'est moi, ben, ça
Laurent.
Va. Déjà, oui, ça fait plaisir parce qu'on avait fait un bro crash sur un film qu'on n'avait pas aimé et on sait bien que c'est plus facile de dérouler sur des choses qu'on n'aime pas, de critiquer tout ça. Mais là, on a décidé de parler d'un truc qu'on aime en commun et d'un studio qu'on aime en commun, qui est effectivement le studio Ghibli. Alors, on va dire, moi je dis Ghibli parce que j'ai lu que ça se lisait Ghibli. Bon, on s'en fout un peu, bref. Mais on prononce Ghibli, mais en tout cas, voilà, le studio de production d'animé japonais. Créé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata, on va y revenir après.
Moi, ce que je te propose, c'est du coup de commencer par toi. Comment t'as rencontré le studio Ghibli ? Je sais pas,
moi, j'ai des souvenirs d'avoir vu des affiches dans le métro, dans une station de métro que je prenais, Juliette, voilà, peu importe, de Princesse Mononoke. Et c'était, moi, j'ai le souvenir parce que Princesse Mononoke arrive en France dans les années 2000, je crois, un truc comme ça. C'est ce que j'ai relu il n'y a pas longtemps. Et en fait, c'était pour moi la première fois qu'on voyait un autre studio que Disney qui essayait de faire des animés à grande envergure. Enfin, en tout cas, voilà, qui avait une portée de dessin animé de ce niveau-là. C'est un peu le premier souvenir. Alors après, les premiers souvenirs de films, c'est un peu plus flou, mais je pense que c'est voilà, les triptyques dont on a beaucoup parlé. Mononoke, Chihiro, voilà, les films qui arrivaient et qui étaient très pris au sérieux. Je crois même qu'il y en a qui sont passés à Cannes, au Festival de Cannes. Donc voilà, c'était tout d'un coup une animation vraiment plus sérieuse, plus alors adulte, j'aime pas le terme, mais en tout cas, qui sortait vraiment par contre des cadres de la narration de Disney habituelle, quoi. Et en fait, c'est aussi tombé pour moi un moment où Disney commençait un peu à décliner. C'est-à-dire, il y a une période de Disney où quand Disney passait à la 3D, c'était pas terrible et on voyait de la 2D avec ses. On en reparlera aussi. De la 2D qui était assez bluffante, quoi.
Puis c'est de la... Alors là où c'est le paradoxe, même, d'ailleurs. C'est que quand ils arrivent en France, il y a certains des films ont 5-6 ans déjà.
Oui.
Et même techniquement, ce que propose déjà à l'époque le Japon et le studio Ghibli, encore au-delà de ce qui arrive en France, ouais. C'est vrai que c'est assez dingue. Moi, mon premier contact, c'est pour Corosso. C'est, je sais que je l'ai vu en salle, ça j'en suis sûr et certain, parce que je peux me souvenir de la salle, c'était celle du Forum Orient Express, celui qui était juste sous la station de RER.
Ce que David Brage appelle le Forum Horizon.
Voilà. Non, le Forum Horizon, c'était l'autre côté.
Bon. Ah oui, c'est l'UGC Cinécité.
Voilà. Sauf que à l'époque, et je me souviens de l'avoir vu là. Je ne sais plus avec qui je l'ai vu.
C'est pas avec moi, mais.
Voilà, ces trucs. Faut quand même. Il arrive en France en 95 alors qu'il est sorti en 92 au Japon. Voilà. Moi, c'est une claque monumentale parce que c'est dynamique. C'est à la fois empreint d'une culture qui, nous, est très européenne, surtout dans Porco Rosso. Et en même temps, il y a tout ce que j'ai toujours aimé dans l'animation japonaise, ce dynamisme, parfois ce côté un peu outrancier par moment, et ce style, mais de ouf. Moi, c'est littéralement un coup de cœur instantané. C'est quelque chose qui est vraiment resté, mais qui est toujours très présent, que j'ai transmis à mes enfants, très clairement. Par contre, moi... Dans tout ce que produit le studio Ghibli, je pense que là, on va se retrouver sur certains points. Majoritairement, ça reste comme les films d'Hayao Miyazaki.
Bah, c'est un peu le problème, c'est un peu l'archétype. Je suis en train de penser qu'il faut attendre 2001 pour voir des sorties similaires. C'est-à-dire, il faut attendre Le Voyage de Chihiro, qui aussi, pour moi, est présenté à Cannes et à... Je sais plus si c'était hors compétition ou pas, mais il a été présenté de manière vraiment... mise en avant, enfin, de manière très, très importante. Quoi.
Et puis, le voyage de Chihiro, ça a été. C'est un carton. C'est de la vraie animation. Voilà.
Alors, en fait, moi, quand tu évoques Porco Rosso, ça me fait penser aussi à. C'est les premiers films de dessins animés, qu'on va appeler ça les dessins animés, parce que ça en est, où on voit où tout d'un coup, moi, je me dis, il n'y a pas de méchant, en fait. Si tu regardes Porco Rosso, il n'y a pas de méchant. Parce qu'on peut pas classer l'autre aviateur comme un méchant. Et souvent.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Souvent, il y a une narration qui est hyper spécifique. Alors, j'exagère parce qu'on avait parlé un jour du Château dans le ciel, d'ailleurs, dans un des premiers épisodes du Bro Clash,
ouais.
Il y a très longtemps. J'ai plus le numéro de l'épisode, qui est un des premiers, qui est une des premières productions du studio, d'ailleurs. Mais voilà, c'est des studios où c'est toujours beaucoup plus subtil. Alors, je pense que c'est subtil parce qu'à l'époque, Disney, qui est le principal producteur de dessins animés, ne l'est pas du tout. Voilà, on est sur des schémas hollywoodiens hyper, hyper forts, donc voir arriver cette narration. Totoro, quand Totoro arrive, il n'y a pas de méchant, quoi. Il n'y a même pas de.
Non, mais c'est pas ça. Totoro arrive tard chez nous, mais tard, bien après tout ça. Pas mal de gens ont eu du mal avec Totoro par rapport à la tonalité, parce que, et même le style graphique, il y avait un vrai. Comment dire, il y avait encore un trop grand décalage. J'aurais juste
regardé
sur Chihiro. Sur Chihiro, faut jamais oublier, Chihiro est le premier film d'animation à avoir eu l'Ours d'Or à Berlin.
Ouais, c'est vrai, absolument.
J'arrive pas à savoir s'il est en Cannes, il devait pas être en compétition parce que j'arrive pas à savoir s'il était là. mais vraiment, faut quand même imaginer Chihiro. C'est clair que c'est la synchro au niveau des sorties à ce moment-là, mais Chihiro, c'est vraiment. C'est la fin, on va dire, de l'ère des conneries à la Ségolène Royal qui dit que l'animation japonaise, c'est que de la violence et que ça devrait être nul. C'est une vraie reconnaissance de qualité artistique et technique et, honnêtement, principalement des qualités du studio Ghibli. Parce que c'est pas tout à fait la même tonalité pour tout le monde non plus.
C'est sûr que, par contre, tu as évoqué Hayao Miyazaki. Le studio, il est porté par ces deux créateurs et toutes les premières productions, c'est soit Hayao Miyazaki, soit Isao Takahata. Alors, Miyazaki est hyper, voilà, a fait les plus grands, je pense, les plus gros succès, encore que Takahata a fait Le Tombeau des Lucioles.
Attends. Le Tombeau des Lucioles, il sort en 96 en France.
88 D'accord. au Japon. Hein.
Ouais, voilà. Il sort dans la continuité de Porco Rosso. C'est dans cette dynamique-là qu'on reçoit Le Tombeau des Lucioles. Ouais. C'est dans la même logique de distribution. Le film, il date de 88 au Japon.
Non, mais c'est ça, quoi. Alors, c'est des thématiques. Effectivement, c'est une façon de raconter. C'est une je reviens à mes histoires de méchants. Princesse Mononoke, quand on voit le film, il y a le jeune héros qui essaye de se sauver en ayant cherché l'esprit de la forêt. Il va rencontrer plein de gens assez différents, et c'est impossible de dire que c'est des méchants, quoi. Il y a l'espèce de vieux mec qui essaye de chasser le, qui au départ est plutôt sympa et qui finalement va se révéler le chasseur de l'esprit de la forêt.
Il y a, c'est pas manichéen.
Il y a Dame Eboshi, au départ on dit bah ouais, elle tire sur les animaux, mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, c'est vraiment ce truc-là qui est vraiment très spécifique. C'est pour ça qu'à un moment dans le parcours, il va revenir à des choses parfois plus enfantines qui vont être là presque déroutantes pour le public, moi y compris. Hein.
Alors, moi, à l'inverse, c'est ce non-manichéisme absolu. Et pour moi, Mononoke, alors, à ce niveau-là, c'est l'archétype. Hein. Princesse Mononoke, personne n'est méchant, personne n'est gentil. Globalement, c'est pas une bonne idée ce que fait Princesse
Eboshi. Mais sauf qu'il y a quand même des animaux vivants qui.
Mais voilà. Et donc, il y a une espèce de. Il y a toujours ce double discours, ne pas non plus. Se limiter à une position, et ça c'est hallucinant. Même Totoro, de façon beaucoup plus légère, oui. De façon plus zen, ne présente pas les choses de façon catastrophique. Il y a un moment dans le film où tu te dis il va virer au noir, et non, il vire pas au noir, et il reprend, mais en même temps, tout n'est pas résolu. Enfin, il y a toujours eu cette double tonalité. Et c'est pareil pour Le Voyage de Chihiro, la méchante sorcière Baba Yaga n'est pas vraiment une méchante. Elle est comme ça parce qu'elle est triste. Il y a toute une construction, un truc qu'on retrouvera un petit peu moins, de façon un peu plus manichéenne dans Le Royaume des Chats, mais c'est pas du Miyazaki.
Non.
C'est pas du Hayao Miyazaki.
Ni du Takahata.
Voilà. Et c'est pareil, le Château Ambulant revient sur ces personnages qui ne sont ni blancs ni mauvais, puisque en voulant combattre la guerre, le magicien
fait la
guerre.
Mieux, il est...
Et surtout se met en danger, se tue. Il y a toute une logique. Et c'est justement l'humanité de Sophie qui le sauve et qui le ramène à autre chose. Quoi. Et qui sauve aussi Calcifer, qui est un démon qui ne devrait pas être gentil et qui finit par sauver tout le monde. Enfin, il y a toujours c'est un des trucs les plus intéressants pour moi dans la production de Ghibli via Hayao Miyazaki. C'est toujours ce refus du manichéisme de ne jamais se limiter à une seule capacité, une seule chose à dire, mais à garder une même thématique par contre, et ça c'est fort. Ponyo, 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 sakana no ko, aoi umi kara yatte kita. Ponyo, 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 fukuranda, mamaru onaka no onna no ko.
と跳ねると心も踊るよ。パクパクチュギュ、パクパクチュギュ。
Alors c'est vrai qu'il y aura un tournant dans les années 2000 parce que voilà après au bout d'un moment c'est jusqu'à Chihiro, c'est je crois que c'est des très gros succès au Japon mais ça sort pas encore dans le monde ou en tout cas pas aussi de manière étendue quoi.
Si on regarde les choses, en vérité c'est qu'avant c'est pas sorti du Japon. Point.
Oui, c'est ça, il ressort après.
C'est que à partir de Chihiro, en vérité, juste avant Chihiro, il y a un accord avec Disney pour distribuer les Miyazaki dans le monde. Et d'un seul coup, bah ça marche beaucoup depuis 95 d'ailleurs, depuis Porco Rosso, il y a un accord avec Ghibli pour distribuer les dans le monde via c'était quoi la Buena Vista
International.
de la Buena Vista, les films du studio. Et c'est comme ça que progressivement, donc on va, comme je disais tout à l'heure, on va arriver Porco Rosso, Le Tombeau des Lucioles, Totoro. Dans cet ordre-là, il faut quand même imaginer Le Château dans le Ciel de 86,
oui, qui ressort,
le premier.
Très tardivement, quoi.
Qui ressort super tardivement, alors que c'est putain, mais ce film est une
tuerie. Il y a des choses qu'on ne sort pas. Pompoko, par exemple, je pense, est sorti plus tardivement, mais Pompoko est très très japonais parce que c'est vraiment la question de l'urbanisation de Tokyo avec une créature. Alors, il y a deux éléments, c'est qu'il y a une.
Les ratons laveurs à grosse couille.
Il y a une créature qui sont des. Alors, c'est des. Ah, je trouve plus le mot. C'est quoi comme bestiole ? C'est pas des ratons laveurs, c'est des. Bon. Non, oui, mais c'est un nom français que je vais retrouver dans quelques instants, le temps de cliquer sur le bon lien. je vais pas y arriver. Des tanuki, merci. Un tanuki. Alors, ça ressemble à un raton laveur, on est d'accord. Et avec des grosses couilles. Et en fait, les statues japonaises sont représentées comme ça, avec des grosses testicules. Et en plus, elles sont magiques. Ça veut dire qu'à un moment, ils font des trucs avec, ils se déguisent. Mmh. Enfin, il y a tout un
truc. Ils se cachent.
Évidemment, malgré la distribution de Buena Vista, elle a ce petit défaut, c'est que, et puis la perception, y compris en France, même s'il y a L'Ours d'Or, on reste sur du dessin animé. C'est toujours regardé d'un œil un petit peu distant, nous, dans le cinéma
européen. C'est pour ça qu'on n'aura pas Les Voisins Yamada très tôt.
Oui, qui est radicalement différent, quoi, qui est vraiment de la chronique.
Que, comme tu dis, les pom-pom-co ne sortiront qu'après.
Voilà.
Parce que c'est comme ça. Alors, à l'inverse, on n'aura jamais de soucis pour voir Le Château Ambulant, Ponyo sur la Falaise. Les Contes de Terre et Mer a été fait par le fils de Miyazaki. Le problème, lui, c'est qu'il a bénéficié d'un mauvais bouche-à-oreille.
De son père, notamment.
Ouais, entre autres.
Son père qui voit et qui est sorti avant la fin des projections test. Alors, Miyazaki, c'est la force du studio et je suis persuadé que c'est peut-être sa faiblesse, en fait, aujourd'hui. C'est la force parce que c'est faut voir le mec là, le niveau de créativité qu'il a. Il y a des documentaires. Alors à mon avis, c'est compliqué de travailler avec.
Ah, ça serait une vraie tête de loup.
Je pense que c'est quelqu'un qui est absolument horrible. Alors après, faut se rappeler que le monde du travail japonais n'est pas le monde du travail européen, même si c'est compliqué.
Ça tend à se calmer.
Ouais, mais il y a quand même un truc où effectivement ils sont dans un absolu. Enfin voilà, ils dorment sur place quand il faut. Enfin voilà, il y a un truc de studio au travail, ça fait partie de la culture. Ça paraît un peu raccourci comme ça, mais il y a quand même quelque chose. Effectivement, ils commencent à se dire, en fait, c'est pas cool. Donc voilà. Mais du coup, Miyazaki, c'est une force de création. Voilà, quand on voit sa filmographie à lui alignée, c'est un truc. Enfin, de penser que ce mec-là a sorti tout ça, c'est fou. Voilà. Mais et à la fois. Ça veut dire que quand ça repose autant sur un seul homme...
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est que pendant très longtemps, le studio était bicéphale.
Oui.
Il y avait Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Je vais dire que le nom de famille. Hein. Ouais. Takahata. Takahata était vraiment le pendant humain, on va dire. Autant Miyazaki est le pendant fantastique.
Oui.
Autant Takahata était le pendant humain du studio et offrait un autre regard parce que ce soit Le Tombeau des Lucioles ou Souvenir goutte à goutte, ce sont des films magnifiques, incroyables.
Mais plus réalistes presque.
Très très bien, non réaliste. Ouais, il y a pas.
Même pour beaucoup. Alors quand on passe le côté Tanuki et.
Oui.
Et ben en fait c'est l'urbanisation de Tokyo les années 60 quoi.
Les pom-pom-cons, les tanuki ne sont qu'une excuse pour parler de la manière dont a été construite une partie de Tokyo sur l'environnement naturel autour. Quoi. Le dernier qui fait le conte de la princesse Kaguya Takahata juste avant sa mort, on est. Alors là, c'est quand même absolument dingo. Il reprend un des contes les plus traditionnels du Japon. C'est dans une forme graphique qui est à cheval entre ce qu'il avait fait pour les Yamada et l'animation qu'il fait d'habitude. C'est très très beau. C'est incroyablement beau. Ça a une ambiance absolument très étrange.
Ça pouvait pas être grand public.
Ça pouvait pas être grand public. Je pense que c'est sûrement son film le film qu'il voulait faire depuis des années. Tu sens le truc comme ça. Je le vois comme ça. Mais c'est le truc le moins accessible de ce qu'il a fait. Et pour une fois, il met le doigt dans le fantastique.
Et c'est
assez étonnant.
Et c'est rigolo parce qu'en fait, pour moi, Miyazaki a fait exactement l'inverse avec Le Vent se lève. Ça veut dire que quand il fait Le Vent se lève, c'est un film profondément nostalgique. Encore une fois, quand même, sur un personnage qui est... c'est pas autobiographique, mais il y a quelque chose de... très personnel sur, encore une fois, les avions. Évidemment, on ne va pas soulever toutes les thématiques, mais vous avez des thématiques qui reviennent très souvent sur l'aviation, sur un personnage au moment de la Première Guerre mondiale, je crois. Je sais pas la deux, j'ai un doute sur une des deux. J'ai un doute.
Oui, c'est la première. C'est la première parce que c'est l'arrivée de l'aviation.
Parce qu'il y a ça, il y a le surtout. En plus, il y a une visualisation d'un séisme qui a ravagé Tokyo, qui est hyper impressionnante. Mais c'est surtout un personnage qui veut faire des avions, qui se moque de à quoi ils sont utilisés et qui se retrouve embringué un peu dans la guerre et qui va pas se poser la question en fait de faire des avions et même si c'est des engins de mort en fait. Et en fait, ça devient, on n'est plus du tout dans le fantastique, même s'il y a toujours des séquences oniriques. Mais du coup, lui va quitter un peu ce côté-là.
Oui, c'est marrant, les deux fondateurs et créateurs de Ghibli ont un parcours totalement inverse, sachant que 2013, c'est la dernière année où ils font tous les deux un film. Et c'est, alors que je ne dise pas de bêtises, je vais tout de suite vérifier, ce sera le dernier film de Takahata, ouais, puisqu'il meurt après en 2018 et il aura
il n'a rien refait
depuis.
Sachant que c'est aussi Le Vent se lève qui avait fonctionné, mais ensuite il y a eu Les Contes de la princesse Kaguya qui n'a pas fonctionné de manière grand public, Souvenir de Marnie qui est une autre personne où ça n'a pas fonctionné, et là le studio décide de faire une pause avant de ressortir l'année dernière La Tortue Rouge, c'est une coproduction. Si je ne me trompe pas, et Aya, la petite Aya et la sorcière, mais on va en reparler un peu plus tard d'Aya et la sorcière quand même.
Ouais,
par contre, pour revenir, et puis après tu me diras, en fait, dans tout ça, il y a quand même une grosse quinzaine de films. En fait, il n'y a jamais eu d'autres. Enfin, c'est comme si on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'autres personnes formées et qui étaient ouvertes à faire des films où ça semble très compliqué parce qu'il n'y a pas de nom qui se répercute. Je fais un tout petit parallèle avec Pixar par exemple, dont on parlera un jour sûrement. Pixar, il y a un pôle de personnes qui développent au début, qui sont les John Lasseter, Pete Docter, deux, trois noms comme ça, alors je ne les ai pas tous. Et en fait, on va les retrouver de film en film, même sur plusieurs. Donc on sort l'espèce de pool de personnes qui va créer, après avec une ouverture avec d'autres, avec parfois Brad Bird qui est venu de l'extérieur ou des choses comme ça. Mais on sent Pixar qu'il y a le but de faire vivre les choses. Et aujourd'hui, on a des... ils vont chercher finalement le réalisateur qui les intéresse pour le projet. C'était le cas pour Alerte Rouge ou pour Soul. J'ai l'impression que Ghibli n'a pas su travailler sa succession. Et quand on voit le rapport de Miyazaki avec son fils Goro, qui a fait deux films, qui a fait Les Contes de Terre et Mer et La Colline aux Coquelicots, on sent bien que moi je suis persuadé que c'est un vrai problème, la succession et la suite, quoi.
Je pense que c'est... Alors moi, c'est pas pour rien qu'on le fait pas en vrai clash. C'est clair, on est parfaitement d'accord là-dessus. Je pense que on m'a parlé de la personnalité d'Hayao Miyazaki. Je pense que c'est fondamentalement un problème parce que je pense pas que ce soit un fou de contrôle, mais je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et que de ce fait, il ne pense qu'il y a potentiellement que lui qui sait, sait le faire. Et du coup, il est pas capable d'envisager la suite. Alors, peut-être qu'on va se tromper, peut-être que là, d'un seul coup, du fait de cette troisième mise à la retraite, il va peut-être, du coup, donner l'impulsion, mais je le vois pas dans cet état d'esprit-là. Et surtout quand je vois Aya et la sorcière, donc, qui est sortie.
Pardon, j'avais oublié, c'est le troisième du fils. J'avais oublié Aya.
Goro Miyazaki, oui. Oui, c'est son troisième.
C'est celui qu'on a fait le plus Miyazaki, Takahata.
Oui, c'est le seul qui revient trois fois. Parce que,
et il a fait, je te coupe après, 30 secondes, le premier qu'il fait, c'est les Contes de Terre et Mer, qui est très joli. Je crois qu'il y a eu des projections avec le père où il est sorti avant la fin. Je pense qu'il y a un truc horrible. Il a fait La Colline aux Coquelicots, qui est un truc très nostalgique sur un lycée dans les années 60 au Japon, qui est très beau, que je trouve très joli, très... pareil, un peu réaliste, un peu presque dans la veine de Takahata dans le côté petite histoire. Et puis, il a fait Aya et la sorcière. Aya, la petite sorcière, la question à se poser, c'est que c'est 2020. C'est qu'ils ont décidé de passer à la 3D.
Ouais.
Alors, ils avaient fait deux jeux vidéo, d'ailleurs, avant.
Je ne comprends pas ce film. N'entends dans la forme que sur le fond.
Ni no Kuni, qui sont des jeux vidéo, il y en a deux, qui était très réputé parce que c'était vraiment le style Ghibli. Alors, tu vas me dire ça parce que tu es plus lié à la création artistique, mais en fait, il y a quand même un style visuel qui est toujours le même.
Alors,
esthétiquement,
non.
Ou alors, c'est lié au Japon ?
C'est pour moi, c'est bien la problématique de Aya la petite sorcière, c'est que on se rapproche plus d'une espèce de 3D standardisée japonaise. Il n'y a plus le style Ghibli. On perd vraiment le style Ghibli. Et c'est quelque chose qui me dérange au-delà de l'histoire qui est franchement pas originale et pas bien faite, et pas bien écrite.
C'était un peu décevant. Moi, je l'ai vu.
Mais il n'y a pas le style. Vraiment, on perd le style. Tu vois ce qui est capable de produire des studios, j'en ai parlé dans un autre coup de cœur, je parlais d'Arkane, la série.
Oui.
La série animée qui est sortie sur Netflix, qui a adapté des jeux de cartes là, dont le nom m'échappe totalement, mais eux ils ont
réussi Magic.
Pas Magic.
Mais non, Arkane.
Oui.
Mais non, c'est pas un jeu de cartes, c'est le jeu vidéo en PVP League of Legends.
League of Legends, pardon, tu as raison, je confonds. Le League of Legends, quand tu vois ce qu'ils ont réussi à maintenir et à faire visuellement avec une vraie forme stylistique, je pense très 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 honnêtement que Gorō Miyazaki s'est retrouvé le cul entre deux chaises, voire trois, à base de dire « Est-ce que je vais plus loin ? Est-ce que je vais faire autre chose ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je garde l'historique ? Est-ce que je vais plus vers autre chose ? Est-ce que je vais ce que je vais faire moi ? Et en réalité, il a essayé de trouver un pseudo-compromis où, qui au final est complètement bâtard et tu te retrouves avec une animation moche, des rendus de personnages moches qui ressemblent un peu à ce que, qui ont un peu l'esprit Ghibli mais l'animation n'étant pas Ghibli, ça rend que dalle, quoi. Et ça me tue d'autant plus que quand tu vois, par exemple, ce qu'a produit Disney pour Star Wars, les Star Wars Vision, où ils ont appelé plein de studios à se réapproprier l'univers de Star Wars en le mettant en animation style japonaise, tu te dis, il y a de la 3D, il y a des effets de volume, il y a des effets des crapels astro, mais pareil, il y avait, à mon avis, le potentiel de faire complètement autre chose, d'oser aller vers autre chose et de faire quelque chose de bien plus réussi techniquement et graphiquement.
Moi, c'était l'histoire qui m'avait laissé un peu. Ça faisait.
L'histoire aussi à chier, je suis d'accord.
Ça faisait cliché Ghibli, en fait.
Ça coche toutes les cases.
Ça faisait un espèce de truc. Une sorcière, une petite fille, la sorcière avec les cheveux bleus, les personnages un peu outranciers. Il y a plein de bonnes idées, hein. C'est pas honteux, mais c'est faiblard. Alors. Ils sont...
C'est d'autant plus faiblard que si tu te dis que c'est ça l'avenir, tu te dis que ça s'appelle un mur, quoi.
Bah ouais, non, mais c'est vraiment pas... Et en fait, on perd le côté magique qui avait été là. Et qui avait... Alors, on peut aimer... tu vois, Le Vent se lève, alors, avait fonctionné au Japon. Les contes de la princesse Kaguya avaient malheureusement pas fonctionné, mais il y avait au moins un truc, quoi. Après, là, on a l'impression que... Ils savent pas où ils vont. Et effectivement, la question à se poser sur la direction du studio, elle est vraiment fondamentale, quoi. Et s'il a vraiment formé personne, parce que je veux bien qu'on dise que c'est un film du fils, mais enfin, c'est produit encore par lui. Enfin, je veux dire,
Alors, je pense que là, il y a un truc qu'il faut pas non plus confondre. Hayao Miyazaki, il a jamais cherché à former quelqu'un qui prendrait sa suite stricte, même si c'est un peu la culture des mangaka au Japon. Je pense que le comparatif que tu faisais avec Pixar est intéressant, c'est que Pixar a énormément évolué, même dans ses rendus techniques, dans ses rendus graphiques. Et Pixar a d'abord été une pépinière de talents, et ils ont trouvé des gens pour aller plus loin, pour continuer de creuser cette espèce de sillon de raconter une histoire avec des outils modernes d'une manière différente. On va résumer ça comme ça. C'est comme ça qu'ils ont démarré, c'est pas comme ça qu'ils finissent, mais on y reviendra un jour. Et là, je pense que Hayao Miyazaki, il a réussi quelque chose, et quand il a réussi, il s'est arrêté. Et il n'a pas été capable de se dire, tous ces univers, tout ce que je dis, est-ce qu'il y a un moyen de les faire perdurer, de le faire vivre au-delà de moi, ou de trouver, de faire que le studio offre à nouveau ce que moi j'ai amené quand il arrive avec en 92 avec Porco Rosso, même au Japon. Porco Rosso, l'univers qu'il présente, pas nécessairement l'animation, mais l'univers qu'il présente, c'est personne ne faisait ça jusqu'ici. Il n'y a lui qui avait déjà tenté ça avec le Lupin et son tout début. Il était la direction artistique de merde.
Pas de Lupin, de quoi? De Horus?
De Sherlock Holmes.
Oui, de Sherlock Holmes.
Avec son démarrage, voilà, c'est Sherlock Holmes que je cherchais en animaux. Il avait déjà un côté un peu steampunk, un univers fantasy, fantastique steampunk, ce qui fait que Nausicaa, en hommage à Moebius, en véritable hommage à Moebius, c'est pareil, il y avait une volonté de croiser des univers et de recréer quelque chose, Et c'est ça qu'il n'a pas été capable pour moi, enfin, qu'il a pour l'instant pas du tout été capable de transmettre. Il n'a pas constitué l'ADN du studio là-dessus. Il l'a constitué sur sa personne et celle de Takahata.
Mais...
Et du coup, bah, s'il n'y a plus eux, il n'y a plus de studio.
Bah, c'est une vraie question.
Et s'il n'y a pas l'ADN créatif, s'il n'y a pas l'ADN de la création ou de l'envie d'amener autre chose, de rechercher autre chose, c'est juste pas possible, quoi.
Mais c'est enfin après moi ouais, je trouve des Totoro, le château dans le ciel on en avait parlé, après il est château dans le ciel, on peut y voir de l'animé pas classique, mais on a des méchants, on a déjà du steampunk, on a déjà des robots, un mélange de tout. Moi dans Totoro, il y avait un truc novateur dans la façon de raconter les choses et tout, c'est ce que tu disais quoi. Kiki, ça reste plus léger, mais même Kiki, il y a un truc plus sympa, plus fun. Plus...
L'intégration dans le réel voilà. Est ouf. Les moments, les séquences qui alternent entre le réel, et puis d'un seul coup, elle fait de la magie voilà. Ou elle vole au travers.
Mais là où tu as raison, c'est que du coup, au lieu de la limite de se reculer, on en revient à Pixar, ce qu'ont fait les fondateurs de Pixar, de prendre du champ et de mener des gens et d'être derrière hein, pour qu'il y ait une qualité, qu'il y ait des choses qui se passent. Bah eux, t'as l'impression que pas. C'est-à-dire que quelque part, ils travaillent sur leur film, et je pense que ça leur prend tellement de temps qu'ils regardent. Enfin, je disais, je pense pas. Hayao Miyazaki, il est producteur d'Aya et la sorcière. Enfin, toi, il est. Mais je suis sûr qu'il n'est pas impliqué. Et en fait, il y a une espèce de truc sur. C'est pas moi qui le fais, du coup, je m'en fous, mais.
Oui, mais on en revient à ce que je disais. Il n'a pas créé de dynamique interne au-delà de sa personne. Ouais. Il n'a pas créé une. Un studio qui va avoir une... comment dire ? On pourrait aussi comparer ça à ILM. ILM, ce sont des gens qui ont été à un moment complètement ouf dans leur manière d'approcher les effets spéciaux, qui ont attaqué les choses dans un autre angle. Et c'est cette culture de la différenciation, d'aller chercher d'autres choses, qui fait qu'ILM est encore de nos jours, avec Weta, les deux seuls studios mondiaux qui font 80% des effets spéciaux au monde, tellement ils sont bons et tellement ils sont en avance sur tout le monde. C'est cette culture... pas de l'innovation, mais de la curiosité technique, de la curiosité intellectuelle, de croiser les champs culturels et techniques, qui fait la différence. Et c'est, je pense que c'est typiquement... alors, on ne peut pas demander la même chose à un studio d'animation japonais, puisque c'est un studio d'animation, pas d'effet, mais je pense que c'est typiquement ce qu'il n'a pas fait. Il a tout laissé reposer sur son, pas sur son propre personne, ça rejoint ce que je disais sur le côté... contrôle ou personne très particulière au caractère un peu de merde, mais du coup, il n'a pas été capable de donner au studio Ghibli autre chose que lui, et du coup, ils ne pourront, pour moi, avec la mort de Takahata, ils ne pourront pas survivre à la mort d'Hayao Miyazaki, ou à défaut à sa retraite.
Aya et la sorcière, ce serait pas une production Ghibli,
ça aurait atterri direct à la poubelle.
On serait passé à côté.
Personne n'en parlerait.
On serait
il n'aurait jamais eu la distribution qu'il a eue.
C'est vraiment pas, c'est pas fou quoi. C'est vraiment très particulier. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est adapté d'un roman anglais. Enfin, ça s'inspire d'un livre de la même autrice anglaise qui avait fait le château, qui avait inspiré le château ambulant. En fait. Voilà. Oui. Et mais enfin voilà, il y a le look, mais il n'y a plus le truc. En fait, c'est comme s'ils se reposaient sur leurs acquis des années 90-2000, en fait. Et effectivement, il y a des bonnes choses. Ponyo, moi, ça m'avait perturbé. Ponyo, je le trouvais hyper bébé. Alors, je suis un peu excessif parce qu'en fait, à la revoyure, c'est quand même plus. Une fois de plus, il y a le côté le père qui. Le sorcier qui a l'air de chercher Ponyo. Qui a l'air méchant, et en fait, on s'aperçoit bah non, qu'il s'inquiète pour sa fille. Enfin, il y avait une subtilité et tout. Mais je le trouvais très léger, très lent. Voilà. Derrière, Arrietty, c'était très beau, il y avait un petit côté, mais c'est pas Miyazaki, il y avait, mais il était vraiment très beau, mais il était très très anglais en fait. C'était les petits bonhommes cachés dans les canapés souvent. Enfin voilà, on parle des borrowers en anglais. Et c'était très sympa parce que du coup, il y a un univers où ils sont tout petits et tous les objets sont très grands. Ça c'est déjà vu, hein, mais c'était vraiment très beau. C'était Arrietty qui avait une musique faite par Cécile Corbel, la violoniste, ou la violoncelliste, je sais plus, ou la harpiste. Bon, en fait, en tout cas, elle fait un des instruments très ambiance Bretagne. Mais voilà, après, quand on repart de ça, à part le Kaguya, la colline au Coquelicot, le vent se lève, les souvenirs de Marnie, on était sur des choses plus réalistes, plus réelles. À part Aya, la sorcière, et en fait, on a l'impression que leur tour au fantastique, bah, si c'est pas Miyazaki, bah, c'est pas bon. Quoi.
Alors, je voudrais quand même dire un truc. Je ne pense pas que Gorō Miyazaki soit un mauvais chara-design ou animateur. Parce que je voudrais quand même. Il faudrait regarder la série qui s'appelle Ronya, la fille du brigand, qui était faite par lui dans le cadre du studio. Les visuels, le design des caractères sont réussis. On est plus proche du cel-shading. Comme on pouvait l'avoir dans d'autres animations, on a une vraie identité graphique, c'est très réussi. C'est pour ça que je ne comprends pas les choix d'Aya. Tu vois, je reste intimement convaincu qu'il a eu le cul coincé vraiment entre la tête de son père et la prod.
Alors,
parce que il n'a pas le talent, non, j'en sais rien. Je pense qu'il n'a jamais eu la place pour l'instant pour s'exprimer.
Oh bah c'est possible.
Mais quand je vois ce qu'il a été capable d'amener donc sur Ronya, fille de brigand, au moins visuellement, il n'y a pas de raison qu'il nous produise un Aya aussi moche. Quoi.
Peut-être que c'est la question à se poser un peu, pourquoi on en discute, parce que malgré tout l'amour qu'on leur porte, peut-être que la mort de Miyazaki serait une bonne nouvelle, c'est terrible à dire, mais peut-être que le studio va permettre... Parce qu'évidemment, le studio, il fonctionne. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses autour. Il y a un parc qui va s'ouvrir. Il y a un musée qui existe, que moi, j'ai eu la chance de voir. Alors, quelque part, le musée est très sympathique, mais qui ne vit que sur l'époque 80, 90, 2000.
Même le parc. Hein. Le parc, c'est là, pour l'instant, ce qui a déjà été inauguré, c'est la maison de Satsuki Emei de Totoro. Voilà. Et ils vont ouvrir le village de Mononoke. Et après, il y a la vallée de la sorcière qui est aussi de Mononoke. Donc, qui doit être de Shiro. Je suis une connerie. Donc, tu vois, on reste sur les époques 90-2000. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, en même temps, pour l'instant, ils n'ont pas autre chose. Hein. Ça, j'imagine les gens qui allaient à Disneyland à la fin 90, au début 2000. Quoi. Tu vois, c'est un peu la même logique. Quoi.
Oui, c'est sûr, mais... Mais voilà, alors est-ce que c'est vraiment une volonté du studio de rester dans l'entre-soi et de ne pas ouvrir et de ne pas chercher autre chose? Est-ce que c'est lié à Ayo? Est-ce qu'une fois Ayo parti ou à la retraite? Je pense qu'il faut qu'il meure. Je pense qu'il ne sera jamais à la retraite, en fait. Je repassais, évidemment, vous trouvez ça sur Wikipédia, mais ce que je vous racontais sur la projection des contes de Terre et Mer, déjà Miyazaki ne voulait pas que son fils soit réalisateur. Commence bien. Et lors de la projection, il lui parle pas à son fils et il sort au bout d'une heure, quoi. Et il déclare à la télévision, parce qu'évidemment, qu'un film ne se résume pas seulement aux sentiments et que son fils n'est pas encore adulte. Bon. Je suis pas sûr que
ça va être sympa devant autant de monde de se faire insulter comme ça.
Par sa propre famille. Du coup, c'est vrai que. Et je trouve que c'est horrible que Gorō y fasse Aya, parce que c'est vraiment, on dirait du sous-Miyazaki, quoi. Du sous-Ayo, quoi.
Tu vois, ça m'interpelle parce que en préparant là, vite fait l'émission, je me suis souvenu donc de Ronya, de la fille de brigand, de Gorō Miyazaki, et c'est pour ça que faut que je le voie. Ça, je l'ai pas vu. J'avais vu qu'à l'époque que les visuels qui étaient sortis. Je me dis, ah, c'est sympa, c'est du cel shading, ils reprennent un peu la méthode, ça change. Et c'est pour ça que quand Aya est sorti, j'ai fait ok, bon bah non.
Mais la 3D, je sais pas si tu vois les images de Nico, j'arrive pas à le prononcer, le jeu vidéo qui a été sorti, Ni no Kuni. Oui.
Ni no Kuni ou Ni no Kuni 2, l'avant.
Eh ben, oui. C'était de la 3D qui avait de la gueule, en fait.
Oui, mais voilà, on retombe toujours sur cette... On retombe toujours sur cette logique qui est de... Pourquoi Aya? Pourquoi ce rendu visuel? Et on aura, à mon avis, je pense qu'un jour on aura la réponse, parce que ça ressemble vraiment à un accident industriel.
Tu vois, je ne saurais même pas dire si ça a marché ou pas, en fait.
Eh ben, tu vois, eh ben, les. Je sais pas. Je peux pas te dire. Le visuel des jeux de No Kuni, c'est le même que sur la série Ronia. Tu vois? C'est le même type de rendu visuel.
Mais c'est très beau.
Pourquoi aller faire autre chose? Donc, je pense qu'un jour, on aura l'explication, même indirectement. Parce que ça ressemble trop à un accident industriel.
Est-ce que ça coûtait moins cher? Est-ce qu'ils ont fait un espèce de truc? Parce qu'effectivement, les derniers films du studio n'ont pas été des gros succès. Enfin, voilà, on parle de Kaguya et de Souvenir de Marnie. Est-ce que c'était un moyen de. Je dirais d'engranger du fric pour un projet. Alors, Hayao Miyazaki est sur un projet en ce moment.
Oui, qui ne sera pas prêt avant encore 3 ans.
Mais voilà, après, du coup, on ne sait pas trop, quoi. Et vraiment, il n'y a aucune. Il n'y a vraiment aucune ouverture pour la suite. Donc, ça inquiète parce que ça reste quand même des. Ça reste un truc fondamental dans le changement qu'on a eu, y compris en Europe. Ce qui est incroyable, c'est que le studio Ghibli, pardon. Est un marqueur qui nous a fait dire il y a autre chose que Disney, quoi. Et il faut. Oui. Bon, alors aujourd'hui ça paraît évident parce qu'on a eu DreamWorks, parce qu'on a eu Illumination, parce qu'on a eu Pixar qui est arrivé.
Même si Pixar a été racheté.
Même si Pixar a été racheté, mais il y a quand même un truc. Il faut penser qu'à un moment, en 95, on se dit qu'il y a. Enfin, c'est au moment de Toy Story, donc juste avant Toy Story, on se dit qu'il n'y a rien d'autre que Disney. Disney renaît dans les années. Début 90 avec La Petite Sirène et les. La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, c'est 94. Il y a Toy Story qui nous montre qu'il y a autre chose, mais c'est quand même américain. Donc on se dit, bon, ok, voilà, puis c'est la 3D. Mais il y a un moment.
Et il y a Kung Fu Panda de DreamWorks.
C'est un peu plus tard, non?
Je ne sais pas quand il se situe, mais pour moi, c'est le succès.
Ah oui, c'est même DreamWorks, c'est même L'Âge de Glace. Ah non, c'est.
Ah oui, c'est pas. Non! C'est Illumination, L'Âge de Glace.
Non, Illumination, c'est le studio français de Moi, Moche et Méchant. Et L'Âge de Glace, c'est la 20th Century Fox, bon, qui a été racheté par Disney aussi.
C'est 2008, Kung Fu Panda. Ouais,
et donc, en fait, il y a un moment où on se dit que Disney, il n'y aura jamais rien d'autre. Et ces gens-là apportent une narration aussi qui fait que Disney, à un moment, s'est dit, on va peut-être arrêter à un moment les trucs manichéens à mort. Voilà, bon, ça ne s'arrêtera pas tout de suite, mais il faut des choses comme ça. Et donc, de voir ce studio-là qui a amené une telle révolution aujourd'hui, s'enliser et ne rien... ne pas être porteur d'autre chose que d'innovation. Après, il y a des périodes. Voilà, on parle de Pixar, on va vraiment finir par en parler, mais il y a eu des périodes plus creuses de Pixar, encore que, mais là, on a vraiment l'impression que c'est la sclérose et qu'il ne sort en rien d'autre. Alors, le seul truc que je n'ai pas comme élément, c'est le marché au Japon. Et l'animé, voilà, on a encore du Dragon Ball qui sort au cinéma au Japon, en France aussi d'ailleurs. Donc, il y a un truc où je me demande comment l'état du cinéma d'animation japonais et aujourd'hui, parce que peut-être que c'est aussi, il y a aussi une explication sur l'état du studio aujourd'hui. Et peut-être que l'idée de la 3D, elle est peut-être aussi là-dedans, parce que voilà. Mais sauf que à l'international, nous de l'extérieur, c'est raté, quoi. Alors qu'on aime tant les autres, mais c'est raté.
Nous chanterons le temps des cerises et guerre au Seigneur. Et merle mon cœur sera tous en fête. Les belles auront la folie en tête. Et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des séries.
Ouais. Donc c'est sur ces quelques mots que nous finissons.
Ouais, quand même, allez, un petit préféré quand même, un de tes préférés dans le lot.
Alors attends, je regarde dans la bibliothèque celui dont j'ai le plus de livres qui me parle des illustrations. Quand je dis que j'aime, grâce à toi aussi.
Effectivement, j'ai eu la chance de voyager à Tokyo et d'aller au studio Ghibli qu'il faut faire quand on aime ça. Il y a vraiment une plongée dans l'ambiance et puis il y a un travail et on voit. Et en fait, c'était ça, c'est le travail, cette recherche, cette magie qu'il y avait pour produire des histoires, même adaptées, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses adaptées, on s'en aperçoit pas, mais qui sont vraiment. Une innovation, enfin voilà, ça émerveille en fait. Et quand il n'y a plus l'émerveillement, on commence à se dire c'est dommage, quoi.
En vérité, le problème, moi, c'est que j'en ai pas un que je surkiffe. Il y a un triptyque pour moi qui est le château dans le ciel, Le Voyage de Chihiro et Le Château Ambulant. Il y a un truc dans ces trois films que je les trouve fascinants. L'univers graphique, la manière de monter le récit, le design, enfin tout me plaît. Je suis moins, j'aime bien Mononoke ou même Nausicaa, mais tu vois, j'y suis moins sensible. Moi, le triptyque, c'est vraiment Château dans le ciel, le Voyage de Chihiro, ouais, et Le Château Ambulant.
Pas mal. Ouais, j'avoue, moi, Le Château Ambulant, j'ai une espèce d'affection. Alors, c'est marrant, c'est que on dit que c'est très japonais et tout. Le Château Ambulant, c'est anglais, en fait. C'est des maisons anglaises, c'est la lande anglaise. Enfin, j'exagère un peu.
Allemande.
Oui, bah, oui, c'est, oui, t'as raison, c'est quasiment.
C'est la Bavière, ouais, ouais, c'est la Suisse. C'est,
Oui, c'est vrai. Non, non, non. Mais il y a un truc que je trouve dans l'histoire. Moi, voilà, le Château Ambulant, il y a des parties drôles, il y a des parties magnifiques, il y a la guerre, il y a quand même une thématique. Regardez les Miyazaki, vous verrez qu'il y a des choses qui ressortent quand même. Voilà. Mais moi, j'ai une petite. Un petit amour un peu spécifique pour Le Château Ambulant, même si c'est pas le plus ambitieux, même si c'est pas le plus grand, mais voilà, il y a un petit côté où je trouve que c'est effectivement un très bon.
Donc toi aussi c'est Le Château Ambulant.
Ouais, quand même.
Et c'est donc la fin de ce brocache où on vous a abreuvé de notre amour pour le studio Ghibli et nos inquiétudes pour ce studio que nous adorons.
Vous pouvez retrouver toutes les petites nouvelles quand on en donne du Broclash sur le Twitter du Broclash @thebroclash, thebroclash. Le tout beau site, merci Arnaud, www.thebroclash.fr, avec des belles vignettes tout bien, qui est tout bien. Et puis il y a les pages, faut tourner les pages pour regarder les anciens épisodes. Voilà, et puis.
Ah. Oui. Et puis j'ai rajouté une petite nouveauté. Ah. Le flux des épisodes est disponible sur PodCloud aussi maintenant.
Ah, très bien.
Peter. Directement.
Super. On vous remercie de nous avoir écoutés. On va se retrouver très bientôt pour un prochain Bro Clash classique.
Ouais. Parce qu'il paraît que c'est toi qui as gagné.
Voilà, c'est moi qui ai gagné le dernier qui parlait de Star Trek. Voilà, vous aimez Star Trek, ça m'a fait plaisir. Surtout les vieux. Voilà. les vieux en pyjama, vous aimez ça. C'est quand même rassurant à un moment de voir ça. Et puis, voilà.
Et ben, on va dire à bientôt.
Et ben, à bientôt.